Et bonjour tout le monde, ça va bien? Content de vous retrouver. Très, très content de vous retrouver. Ce matin, on poursuit notre série dans Jean. Et puis, on retrouve la femme samaritaine. Je vous lis deux versets très rapidement. La femme lui dit, en parlant à Jésus, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Ce matin, on poursuit cette rencontre-là, vraiment fascinante, que Jésus fait avec cette femme. Elle va passer d'une personne qui ne connaît pas du tout Jésus-Christ, qui est en fait loin de Dieu de bien des manières, par ses croyances, par des fausses croyances qu'elle a héritées, et puis elle va se transformer en un témoin de Jésus-Christ. Littéralement, on assiste à sa conversion. C'est ça qui se passe. Elle passe d'une personne qui ne croit pas, qui ne connaît pas, à quelqu'un qui croit puis qui se met à témoigner. Puis il y a une leçon incroyable. En anglais, on appelle ça un « teaching moment » où Jésus va comme arrêter ses disciples et il va dire « Non, non, vous ne comprenez pas le time out. Regardez ce qui est en train de se passer ici. C'est vraiment beau. C'est ça notre mission. On est en plein dedans. » Puis ce matin, on va faire un petit peu de poésie. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui apprécie la poésie, mais c'est parce qu'il y a des choses dans le passage de Jean qui sont vraiment beaux. Alors, quand vous pensez poésie, pensez ça au sens très, très lousse. Par exemple, moi, je trouve qu'un match de football, je l'ai déjà dit, c'est poétique. OK? Fait que prenez ça dans ce sens-là. Des espèces de grosses brutes qui partent à courir avec grâce. Puis là, ils ont un ballon ovale, puis ils font des lancers de malade. Je trouve ça poétique. La crucifixion, c'est poétique. C'est un poème très sombre, mais c'est poétique. Dieu met en image une réalité historique qui, à travers tout ce qu'on voit, est très graphique, mais très, très, très puissant. Et donc, il y a des images dans ce passage-là. Je vais appeler ça une espèce de fable alimentaire. Vous allez voir, il y a des images de boire, de manger, de fruits, tout ça, de nourriture. Ça revient, puis Dieu se sert de ces images-là parce que ça nous marque. Ça nous aide à comprendre. Jésus était très, très fort sur les images et l'apôtre Jean qui a écrit cet évangile-là se sert d'images pour nous aider à saisir la beauté de l'évangile puis la beauté de la mission à laquelle on est appelé comme chrétien, comme disciple de Jésus-Christ. Donc, on va voir ça ensemble ce matin. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Je voulais déjà vous le donner, ça va vous aider à suivre tout à l'heure la lecture. Celui qui a bu les paroles de Jésus se nourrit maintenant de sa volonté en annonçant le Sauveur du monde à tous les affamés. Je ne suis pas éthique ce matin. On va prier ensemble et on va écouter la lecture de la parole de Dieu. Père éternel, on vient dans ta sainte présence pour recevoir ta parole. Ta parole est puissante. Ta parole, Jésus, transforme cette femme samaritaine. C'est vraiment beau à voir. Elle boit tes mots, puis croit en toi, devient témoin à son tour. C'est très, 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 très beau, Seigneur. Et Seigneur, nous croyons que tu es puissant pour nous transformer, pour nous guérir, pour nous sauver, non seulement pour nous faire passer de la mort à la vie spirituelle, mais encore pour nous faire grandir en toi, Jésus. Nous apprendre à devenir comme toi, Seigneur, qui te nourrissait de la volonté de ton Père, ta nourriture, ce qui te rassasiait, c'est de faire la volonté de ton Père. Enseigne-nous, Seigneur, ce matin, nous t'en prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Alors, la suite de l'histoire avec la Samaritaine se trouve dans Jean, au chapitre 4, les versets 27 à 45. Jean 4, 27 à 45. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parlas-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête.
Merci. Merci, Esther. Verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu? De quoi parles-tu avec elle? » J'imagine la scène. Jésus est en train de jaser avec la femme samaritaine. À l'époque, un homme ne parlait pas nécessairement à une femme en public. Un homme qui enseigne la parole de Dieu est encore plus, hein, avait des principes. Puis parler avec une femme samaritaine en plus. Fait que les gars arrivent de loin, sont allés au village chercher de la nourriture, puis là, ils le voient de loin, puis ils disent « Attends un peu, il y a quelqu'un avec Jésus. » Ils sont en train de jaser ensemble, puis « Hey man, il parle avec une femme. » Il parle avec une femme samaritaine. Puis là, personne n'ose y en parler. Fait qu'il arrive à Jésus, puis change de sujet. « Regarde ce qu'on a trouvé en ville, on a de la nourriture pour toi, Seigneur. On a de la bonne bouffe pour toi, il faudrait que tu manges. » Mais on sait, si vous connaissez les évangiles, vous savez que Jésus, souvent, sait très bien ce que les gens pensent, ce qu'ils sont en train de réfléchir. Fait que j'imagine Jésus qui est... Teaching moment, comme j'ai dit tantôt. Il dit, les gars, come on, sérieux. Vous allez chercher de la nourriture, puis là, vous êtes troublés parce que je suis en train d'annoncer le royaume à une femme qui ne connaît pas le royaume de Dieu. Et là, ce qui va se passer, c'est que Jésus va prendre cette scène-là pour faire de la formation de disciples. Jésus a appelé ses disciples, eux autres ont cru en lui. Maintenant, il dit, là, je vais prendre le temps de vous enseigner. Parce que les gars pensent qu'ils connaissent Jésus. Ils ont saisi certaines choses, mais ils ne connaissent pas vraiment. Tant que tu ne connais pas la mission de Jésus-Christ, tu ne connais pas vraiment Jésus-Christ. Tant que tu ne connais pas la mission que le Père lui a confiée, tu ne connais pas vraiment Jésus-Christ. Et donc, c'est très beau ce qui se passe dans ce passage-là parce qu'on voit une dame qui va croire en Jésus, qui va spontanément se mettre à témoigner de Jésus. Puis là, on voit les disciples qui, eux, ont déjà cru en lui, mais qui ont encore beaucoup à découvrir sur lui. Puis qui sont là, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Là, tu parles d'une femme samaritaine. Écoute, on a une mission, tu es le roi des Juifs, tu sais. Puis là, Jésus va arrêter tout ça. Il va dire, les gars, vous n'avez pas compris, c'est ça notre mission. Et donc, il prend ce moment-là pour renseigner ses disciples. On a comme une espèce de boucle parfaite de quelqu'un qui ne connaît pas Christ, qui devient un témoin, puis Jésus qui prend les témoins puis qui va les transformer en disciples qui peuvent à leur tour témoigner. Mais pour ça, ils ont besoin de comprendre la mission de Jésus. Donc, je vous répète comment je résumais l'exposé de ce matin que je vous ai dit tout à l'heure. Celui qui a bu les paroles de Jésus se nourrit maintenant de sa volonté en annonçant le Sauveur du monde à tous les affamés. Il y a vraiment une petite fable alimentaire, je vous dis. C'est constant à travers le texte. C'est très, très beau. C'est vraiment beau comment Jean écrit. Jésus se nourrit de la mission du Père. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange! » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples arrivent, il y a un malaise, Jésus avait certainement faim, Ils marchent de longues distances, sont allés au village. Puis là, ils commencent à dire, « Garde, mange, Seigneur, mange. » Puis Jésus va prendre ça, ce moment-là où, « OK, je comprends, j'ai faim, les amis. » Mais vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose qui me nourrit beaucoup plus que ça? Il y a quelque chose qui me rassasie l'âme beaucoup plus que de manger quelque chose qui est bon pour mon corps. Il y a une autre nourriture que vous ne connaissez pas que j'ai à manger. Et souvent, souvent, je vous donne une des clés avec Jean, souvent quand Jésus dit « vous ne connaissez pas », ça veut dire « je vais vous faire connaître ». Souvent, c'est ça que ça veut dire dans Jean. Il va dire « moi, j'ai une connaissance que vous avez pas parce que je viens de mon Père qui est dans les cieux ». Donc, vous ne connaissez pas ça, mais en définitive, on le connaît maintenant parce que nous, on est les lecteurs, puis finalement, l'Évangile sert à nous faire connaître ce qu'on ne connaissait pas. Et donc, quand Jésus dit ça, il dit « j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas », en réalité, il est en train de dire « vous devez apprendre à manger cette nourriture-là ». C'est ça qui nous rassasie vraiment, vraiment, vraiment l'âme. Jésus est le sauveur du monde, puis lorsque je vous dis qu'ils ne le connaissent pas vraiment, c'est que pour eux, c'est le roi des Juifs. C'est intéressant, à la fin du passage, les gens du village de la Samaritaine vont revenir, puis lorsqu'ils vont parler avec Jésus, ils vont dire, « OK, nous, on a vraiment compris, tu es le sauveur du monde. » Mais les disciples avaient compris que Jésus était le Messie. Ça, ce n'était pas un problème. Et donc, pour eux, c'est le roi des Juifs. Ils ne le connaissent pas vraiment tant qu'ils ne réalisent pas qu'il est non seulement le roi des Juifs, il est le sauveur du monde. Et puis, des fois, je pense que c'est une des choses qu'on perd de vue, nous. Parce que ça nous pose la question, est-ce que Jésus est ton sauveur ou est-ce que c'est le sauveur du monde, à tes yeux? Si c'est ton sauveur, mission accomplie, t'es sauvé. Si c'est le sauveur du monde, la mission commence. Il faut aller gagner le monde. Pour eux, c'était le roi des Juifs. Et donc, la mission était simplement d'aller à Jérusalem, de l'introniser, qu'il devienne un roi, tout est réglé. Merveilleux, on a trouvé le Messie. Jésus, il dit, non, vous ne me connaissez pas. Je ne suis pas seulement le roi des Juifs, je suis le roi de tous ceux qui croiront en moi, de tous ceux qui entreront dans le royaume de Dieu, je suis le sauveur du monde. Les disciples le pressent à manger, puis Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ma nourriture, au verset 34, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Pour Jésus, ça allait de soi. Il n'y a rien de plus nourrissant pour le Fils de Dieu, qui est en parfaite communion avec Dieu, que de faire la volonté de son Père. Il n'y a rien qui rassasie son âme, bien au-delà de la nourriture. On sait ce que c'est de manger à festoyer, tout en ayant le cœur triste. On a tous fait ça. Qu'on pense un peu dans la bouffe, mais en réalité, l'âme va très mal. Jésus dit, non, il y a une nourriture qui est beaucoup plus nourrissante que tous les festins que tu vas pouvoir manger sur la terre. Et ça, c'est de faire la volonté de mon Père. Et Jésus est en parfaite communion avec son Père. Pour lui, ça va naturellement. C'est vraiment une image puissante. L'idée de dire, Dieu m'a envoyé, j'apprends à connaître sa volonté, puis simplement faire sa volonté, ça me rassasie, ça me nourrit, je suis bien, j'ai tout ce qui est nécessaire. Puis ça m'amenait à méditer sur la prière que Jésus enseigne à ses disciples. Vous savez, le Notre Père commence avec ceci, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça peut être une prière comme de soumission. Un petit peu une prière, on pourrait dire d'adoration. De dire, « Seigneur, t'es Dieu. » C'est toi qui gouvernes. C'est fair. T'sais? Pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Après tout, tu es Dieu. T'sais? J'ai des choses que je voudrais. J'ai ma volonté. J'aurais des désirs, mais je suis chrétien. Bien y penser que ta volonté soit faite. T'sais, je me soumets à ça. Mais pour Christ, c'était beaucoup plus que ça. Pour Jésus, c'était beaucoup plus que ça. C'était ce qui nourrissait son âme. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, parce que c'est ça la perfection. Parce que tu es Dieu. C'est ça que je veux dans mon cœur, dans le ciel, dans le monde, parce que tu es le sauveur du monde. Et c'est ça qui est parfait. Alors voyez-vous, pour Jésus, ça va de soi, mais pour nous, c'est un apprentissage. Apprendre à ne pas chercher à se rassasier dans toutes sortes de désirs, dans toutes sortes de choses qui, des fois, sont très saines, mais qui ne rassasient pas l'âme, puis apprendre à se nourrir de la volonté de Dieu. Vraiment chercher sa volonté dans sa parole, le connaître, discerner sa volonté, puis apprendre à me nourrir simplement, être rassasié, d'entrer dans sa volonté, entrer dans ses desseins, entrer dans ses plans. Et pour nous, c'est un apprentissage pour le peuple d'Israël. Un beau passage dans Deutéronome 8. Dieu parle à son peuple, puis il parle du fait qu'il a dû les éprouver. Il a dû leur faire passer des tests pour qu'ils puissent apprendre qu'ils pouvaient lui faire confiance et qu'il allait prendre soin d'eux. Et donc, dans Deutéronome 8, 3, on lit, « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et n'avais pas connue de tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Pour Jésus, ça allait de soi. L'homme vit de la volonté de Dieu, de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais pour des êtres pécheurs comme nous, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Je bois les paroles de Christ, je deviens chrétien et j'apprends à me nourrir de la volonté de Dieu, de la volonté de Christ, de la mission dans laquelle il m'a envoyé, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Dieu a dû éprouver son peuple pour lui apprendre à être rassasié, comblé, nourri de la parole de Dieu. Voyez-vous, Jésus prend plaisir à faire l'œuvre de celui qui l'a envoyé. Il dit ça, c'est ma nourriture. Je sais d'où je viens, je sais qui je suis, je connais mon identité, je connais ma mission, je sais à quoi je suis appelé, ça c'est ma nourriture. Entrer dans son œuvre, ça me rassasie, ça me nourrit, ça me comble entièrement. La semaine dernière, je disais, pour nous chrétiens, le passage avec la Samaritaine nous rappelle que c'est Jésus qui peut vraiment combler notre soif. C'est lui qui est la source de vie. Et des fois, s'il y a quelque part, on trouve que notre âme est troublée, notre âme ne trouve pas de repos, c'est peut-être parce qu'on s'est éloigné de la source qui est Christ. Puis on ne vit plus dans la plénitude de l'Esprit. Notre source à nous ne jaillit pas très fort parce qu'on s'est éloigné de Christ à quelque part. Mais peut-être aussi, en voyant le passage ici, que j'ai détourné mes regards de mon appel, de ma mission. Jésus dit que ce qu'il nourrit, c'est de faire la mission pour laquelle il a été envoyé. Et c'est quoi ta mission? Quel est ton appel? Qui t'a envoyé? Si tu es chrétien, on a une réponse. Hein? C'est ça que Jésus va leur montrer aux disciples. Il va les enseigner maintenant avec ça. Jésus se nourrit de la mission de son Père. Et deuxièmement, celui qui a bu à Christ se nourrit de sa volonté, de sa mission, à son tour. Celui qui a bu à Christ, aux paroles de Christ, se nourrit de sa volonté et de sa mission. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est comme une fable alimentaire. Il y a une femme qui est là, puis qui a soif, qui s'en va pour boire, puis Jésus lui parle d'une autre eau qui vraiment va la satisfaire. Puis une fois qu'elle va avoir bu cette eau-là, il est question de ce qui nourrit Jésus, des aliments qu'il rassasie. Puis ces aliments-là, c'est la volonté de son Père. Puis c'est d'entrer dans cette mission-là. Puis ensuite de ça, Jésus va prendre ce moment-là pour enseigner les disciples, puis dire, « Je vous ai envoyé, je vous ai donné de la nourriture, je vous ai donné une mission. » Vous connaissez la mission. Et puis c'est très beau parce qu'il termine en disant, si vous entrez dans ma mission, si vous vous nourrissez de ma volonté, vous allez porter des fruits jusque dans l'éternité. On est encore dans les aliments, ça va porter des fruits jusque dans l'éternité. Puis on a une illustration de ça dans le passage. Jésus entre dans la mission que son Père lui a donnée, il annonce l'Évangile à cette femme-là, samaritaine. Qu'est-ce qui se passe? Elle se convertit, puis elle devient un témoin. Jésus récolte déjà dans ce champ-là qui est mûr un fruit pour l'éternité, qui va être entraîné dans l'éternité. C'est vraiment, vraiment beau, parce qu'elle s'est convertie, elle a cru en lui, elle a cru qu'il est le Messie. L'œuvre de salut de Christ n'est pas entièrement accomplie, il reste encore le moment où il va envoyer l'Esprit-Saint après sa résurrection. Mais pour autant que c'est possible de se convertir à cette étape-ci de son ministère, cette femme-là s'est convertie. Elle est même devenue un témoin de Christ, qui va en convertir d'autres par la puissance de l'Évangile, D'autres vont devenir, à cause de son témoignage, des témoins de Christ à leur tour. C'est vraiment très, très beau. Celui qui a bu à Christ se nourrit de sa volonté, de sa mission. Jésus avait dit à la femme samaritaine, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Cette femme-là a bu les paroles de Christ. Elle a reçu l'eau que Jésus donne. Elle a cru qu'il était le Messie. Et déjà, sa source est en train de jaillir. Elle devient témoin. Elle est déjà portée par une vie nouvelle. Avant, c'était quoi son statut? C'était la femme qui était mise à part, qui allait seule puiser de l'eau, comme on a vu ensemble, à l'heure du midi, en plein soleil. Une femme qui avait une vie certainement déréglée, pour autant qu'on peut comprendre. Puis tout d'un coup, elle devient un témoin. Elle a bu les paroles de Christ et cela est déjà en train de produire une vie nouvelle en elle qui va jaillir jusque dans la vie éternelle parce qu'elle va aller témoigner à des gens de son village du Messie qu'elle a rencontré, de Jésus-Christ. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Elle le fait avec spontanéité parce que cette vie-là est là en elle. Elle veut parler de Jésus. Elle est rassasiée spontanément. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller partager ça. Et donc, Jésus va prendre ce moment-là pour enseigner ses disciples. Il va dire, les gars, ce que vous voyez quand vous arrivez, c'est que je suis en train de parler avec une femme. J'ai aimé, un commentateur a dit, s'ils avaient été un peu plus humbles, il n'aurait pas dû se dire, hey, il parle avec une femme samaritaine. Ils auraient dû se dire, comment ça se fait qu'il nous parle à nous, en fin de compte? Parce que je vois que s'il est capable de parler à elle, ça dit beaucoup sur moi. Hey, c'est les amis du Messie, là. C'est les amis du roi des Juifs. Si ces gars-là avaient été humbles pour 5 cents, ils auraient dit, c'est confondant que Jésus parle à des n'importe qui comme nous, comme elle, comme tout le monde. Mais non, ce n'est pas ça qu'ils voient. Ils voient que Jésus sort des conventions, ne comprennent pas sa mission, ne comprennent pas vraiment qui il est encore. C'est le roi des Juifs, sûrement pas le sauveur du monde. Sûrement pas le sauveur du monde. Jésus dit, non, je vais vous enseigner. Regardez les versets 35 à 38. « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? » Voici, je vous le dis, levez les yeux. Regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et que celui qui moissonne se réjouissent ensemble, car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé et d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Jésus les envoyait dans un champ. Jésus est dans un champ qui est prêt pour être récolté. La preuve, c'est cette femme-là. Je veux dire, c'est pas, Jésus n'a pas semé l'Évangile pendant 5 ans auprès de cette dame-là. On n'a aucun indice sur son arrière-plan, à part un arrière-plan qui était honnêtement tout croche. Les Samaritains connaissaient certaines choses sur Dieu, mais ils s'étaient vraiment éloignés de l'Ancien Testament. Ils avaient comme leur version à eux. Ils adoraient à leur endroit. Il y avait plein de choses qui étaient fausses dans leurs croyances. Même si on pouvait trouver à quelque part un arrière-plan qui ressemblait à ce que les Écritures enseignaient. Il y a plein de gens comme ça qu'on rencontre. Puis un des défis qu'on a à notre époque, c'est qu'on se dit, moi le premier, je me dis, les gens partent de tellement loin. Je pense que ça va prendre 10 ans juste pour qu'ils puissent saisir l'Évangile. Puis, il y en a plein comme ça. Il y a plein de gens qui sont autour de nous, puis tranquillement, je veux dire, je suis un de ceux-là. Pendant combien d'années on m'a annoncé l'Évangile avant vraiment que je me convertisse? Longtemps. Je me suis converti à 19 ans. J'ai commencé à entendre l'Évangile quand j'avais peut-être 6 ans. Tu sais, il y en a qui sont plus durs à comprendre. Dieu était patient avec moi. Pourtant, cette dame-là était prête à recevoir l'Évangile. Le champ était mûr. Les céréales étaient prêtes à être récoltées. Le fruit était là, prêt à être récolté. C'est vraiment, vraiment beau à voir. Jésus était envoyé dans un champ qui était prêt à être récolté. Cette dame qui spontanément a cru en lui, est vraiment un bel exemple de ça. Jésus a semé, il a moissonné et déjà, il a des fruits pour l'éternité. Puis Jésus leur dit au verset 38, « Je vous ai envoyé où vous n'avez pas travaillé. » Jésus vient juste de dire, moi j'ai une mission et me nourrir de ma mission, c'est ça qui me rassasie. Il vient de dire ça, hein? les gars veulent le faire manger, tout ça. Puis là, Jésus, il dit, attendez un petit peu, les gars, vous n'avez pas compris, j'ai une nourriture qui est beaucoup plus satisfaisante que ça. C'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé, entrer dans son œuvre. Tout de suite après, il leur dit, maintenant, je vous ai envoyé. Vous connaissez ma volonté? Vous savez ce qui rassasie l'âme d'un disciple de Christ? Comme rien d'autre, comme absolument rien d'autre, sinon que d'entrer dans la mission qu'il nous a donnée. Parce qu'on a des fruits à récolter. Et ça pose la question, ce passage-là pose la question, qu'est-ce qui nous rassasie? Qu'est-ce qui te rassasie? Est-ce que vraiment ça te rassasie? Il y a plein de choses qu'on peut faire sur la terre qui peuvent nous occuper, qui peuvent aider la vie à passer de manière plus agréable. Des choses même extraordinaires qu'on peut réaliser. Dieu nous a créés avec des dons, avec des talents, avec des capacités. Puis je pense que tous les chrétiens devraient se servir de tous leurs talents, leurs capacités. Si tu es appelé à être un musicien de réputation internationale, si tu es appelé à être un professeur, si tu es appelé à être un ambulancier, peu importe, Dieu t'a donné des dons puis des talents. Et ça, ça fait partie de ta vocation, ton appel, définitivement. Mais en même temps, ça ne veut pas dire, comme chrétien, que c'est seulement pour ça que tu as été envoyé. Notre mission dépasse tout le bien qu'on va pouvoir faire sur la terre. Croyez-vous ça? Notre mission dépasse tout le bien qu'on pourrait faire sur la terre. Pensez à ça. Méditez là-dessus. Notre mission dépasse tout le bien que je pourrais faire sur la terre avec tous mes talents, tous mes dons, toutes mes opportunités, toutes mes capacités. Et les gens qui ne connaissent pas le royaume de Dieu vont te vendre le message que ce qui va rassasier ton âme, c'est d'accomplir le total de ton potentiel. Ça, là, tu vas te réaliser là-dedans. Ouais. Bon, j'arrive à 50 ans, tu sais, j'ai 50 ans, fait OK, peut-être pour 20 ans, pour 30 ans. J'aimerais ça avoir quelque chose qui a comme une portée éternelle. Mais j'en ai une, j'ai une mission. J'ai été envoyé pour ça. Et donc, bien qu'on s'applique à plein de choses super importantes sur la terre, je suis un époux, je suis un père, je suis un employé, je suis un travailleur, je suis un voisin, je suis un citoyen, il y a plein de choses que je peux faire. Je suis un artiste, je suis un écrivain, je suis un sportif, il y a plein de choses que je peux faire. Je suis quelqu'un de sensible, je peux prendre soin des gens. Il y a plein de choses que je peux faire qui sont super intéressantes, belles, qui glorifient Dieu, que je devrais faire. Parce que je peux aimer mon prochain à travers mes dons, mes talents. Mais toutes ces choses-là sont d'une portée temporel, limité. Il y a quelque chose qui rassasie l'âme. C'est d'entrer dans la mission de celui qui nous a envoyés. Et le champ est prêt à être moissonné. Et les chrétiens vont vous dire, les gens ne se convertissent plus aujourd'hui. C'est un mensonge. S'il n'y avait plus une personne à convertir sur la terre, Christ reviendrait immédiatement. Les gens se convertissent encore aujourd'hui. Puis on est tenté de le croire, moi le premier. Ah, au Québec, c'est difficile d'annoncer l'Évangile, c'est une terre aride. Oui, les Québécois sont profondément plus pécheurs que tous les humains de la terre. N'importe quoi. Non, les Québécois, c'est des gens charmants qui ne connaissent pas Christ puis qui sont pécheurs. Puis oui, on a nos mensonges ici dans la culture qui fait que l'Évangile est difficile à présenter, mais il y a des mensonges partout. Pensez pas qu'ailleurs sur la terre, tout le monde est disposé à se convertir. Puis oui, le Québec a eu une expérience du christianisme qui, disons-le, ne nous a pas donné les meilleures chances, n'est-ce pas? Parce que ce n'était pas vraiment le christianisme. On t'a enseigné à aller monter à genoux l'oratoire Saint-Joseph, puis en faisant ça, tu vas pouvoir sortir du purgatoire un petit peu plus vite. J'expliquais ça à quelqu'un cette semaine. C'est pas l'Évangile, ça. C'est pas la grâce, ça. Je veux dire, elle n'a pas monté beaucoup de marches à genoux, la Samaritaine. Elle a juste bu les paroles de Christ. Une vie nouvelle. Elle n'a pas été préparée pendant 7-8 ans. Une vie nouvelle, un témoin spontané, puissant, parce que ce n'est pas elle, c'est ce qu'elle a reçu qui produit cette vie-là. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau, honnêtement. Jésus est l'eau de la vie éternelle. Et cette eau-là que je veux avoir toujours présente dans mon cœur, dans mon âme, je veux que mes enfants l'aient. Je veux que mes parents l'aient. Je veux que mes voisins l'aient. Je veux que mes concitoyens à Longueuil l'aient. Je veux que mes amis l'aient. Je veux que mes collègues de travail l'aient. Puis il y a des gens à qui on va annoncer l'Évangile qui vont dire « Wow, 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 pompon, ça c'est bon pour toi. » C'est correct. Pas de problème. Jésus avait un principe, hein? Enlève la poussière de tes pieds, passe au prochain appel. Parce que le champ est prêt. Il y a des gens vraiment qui se convertissent. Il y a des gens vraiment qui deviennent chrétiens. On prépare des baptêmes, il y a des baptêmes qui s'en viennent. Il y a des gens qui ont connu Christ pendant le confinement. Je veux dire, tu sais, isoler quelqu'un, se convertit. Jésus est venu pour rassasier tous les affamés du monde. Il est venu pour les nourrir d'une nourriture qui rassasie l'âme. Et notre grand privilège, plus que notre grand privilège, notre nourriture, c'est de faire sa volonté puis d'entrer dans sa mission. Alors, je termine avec ceci. Mon troisième point, témoigner du Sauveur du monde pour rassasier les affamés. Je l'ai dit tantôt, pour les disciples, Jésus était à ce moment-ci le roi des Juifs. Donc, ils le connaissaient plus que la majorité des gens, mais ils ne le connaissaient pas vraiment. En fait, ils vont vraiment le connaître lorsque Pierre va saisir qu'ils sont appelés à aller vers les non-juifs. C'est là qu'ils vont saisir vraiment. Ah, t'es sauveur du monde dans ce sens-là. Dans le sens que tu vas sauver plein de non-juifs. La Samaritaine, ce n'était pas une exception. Ça va devenir la majorité. Ça va devenir la vaste majorité des gens qui vont croire en Christ sans arrière-plan juif. Et c'est beau de voir dans le passage, celle qui a bu les paroles de Jésus témoigne simplement. Alors la femme, au verset 28 à 30, « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens de la ville, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? » Fait qu'elle, spontanément, elle s'en va témoigner. Elle ne sait pas comment elle va être reçue. Elle est émerveillée par Jésus, elle a trouvé ça fascinant, elle dit « C'est plus qu'un prophète. » Puis il m'a dit que c'était lui qui allait nous annoncer tout ce qui allait venir. Spontanément, elle s'en va témoigner avec cette joie-là, toute belle qui est là. Maintenant, c'est quoi la réponse au verset 40 à 42? « Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver et le prièrent de rester auprès d'eux. » Ils le prièrent de rester auprès d'eux. « Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. » Ils ont bu aux paroles de Christ, puis ils ont cru. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Ils ont bu à Christ et ils ont cru. Et eux, maintenant, portent ce message-là, que Jésus est le Sauveur du monde. C'est tellement facile pour nous chrétiens d'oublier que Jésus est le Sauveur du monde puis de penser qu'il est le Sauveur de Yannick. Ou peut-être qu'il est sauveur de mes enfants, de ma famille, de ma maison. Peut-être sauveur de mes collègues de travail. C'est le sauveur du monde. Il est en train de sauver actuellement partout dans le monde. Peut-être qu'il t'appelle à partir en mission. Un jour, on va avoir le droit de prendre l'avion. Croyez-moi, un jour, on va pouvoir sortir d'ici et aller annoncer l'Évangile en Haïti, partout dans le monde. Mais déjà, on peut le faire. Déjà, je peux m'entraîner à entrer dans cette mission-là à laquelle il m'a appelé. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre en avant. Acte 1-8. Plus tard, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le Nouveau Testament, donc après la mort, la résurrection de Jésus, ben le livre à quelque part logique qui suit, c'est le livre des Actes, parce qu'il nous raconte l'histoire de l'Église au début. Et dans Acte 1-8, c'est Jésus qui parle, donc il n'est pas monté encore au ciel. Il parle à ses disciples et voici ce qu'il dit. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, vous allez y retourner compléter le travail qu'on a commencé, et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est vraiment un beau passage où on voit Jésus, le Christ, qui annonce l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle qui est venue pour sauver les hommes pécheurs. Et donc, il est en train de dire, c'est moi le Messie. Et cette femme-là, qu'il ne connaissait pas du tout, passe d'une étrangère, confuse théologiquement, ne connaît pas la vérité, prie dans sa vie à elle de misère, puis elle rencontre le Christ et elle est transformée en témoins de Jésus-Christ. Les disciples ne comprennent pas que Jésus est sauveur du monde. Ils pensent que c'est le roi des Juifs seulement. Ils pensent que c'est leur sauveur à eux seulement. Puis ils disent, écoute, tu es en train de te distraire de ta mission. Non, ma mission, c'est de venir sauver le monde. Et ça, c'est ma nourriture. Ça me rassasie. Et si tu as cru en Jésus-Christ, si tu es chrétien comme moi, c'est que tu as déjà bu les paroles de Jésus. Il y a quelque part cette vie-là maintenant par l'Esprit-Saint est là en toi. Tu es un témoin de l'Évangile. Tu possèdes un trésor que peu de gens possèdent. Maintenant, ta nourriture, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui nous a envoyés. Et il nous a envoyés dans le monde, ici à Longueuil, dans notre famille, autour de nous. Et l'Église de l'espoir, si elle veut être rassasiée, ne va pas être distraite constamment avec plein de choses qu'on poursuit qui ne rassasient pas l'âme. On va se servir de tous nos talents, de tous nos dons, de toutes nos capacités, du bâtiment ici, la banque alimentaire, chacun dans nos vies personnelles. Oui, on va se servir de toutes ces opportunités-là pour aimer notre prochain. Mais je sais que tout ça, ce n'est pas ce qui rassasie mon âme. Ce qui rassasie mon âme, c'est d'entrer dans la mission pour récolter des fruits jusque dans l'éternité. Et ça me fait plaisir de venir à la banque alimentaire puis donner de la nourriture pour aider des gens. Mais je veux les connaître, je veux les aimer parce que je veux aussi leur parler de Jésus. Je vais aller les reconduire chez eux peut-être parce que je veux leur parler de Jésus. Je vais prendre le temps de juste les connaître, m'asseoir avec eux parce que je veux leur donner une autre nourriture qui va porter des fruits jusque dans l'éternité. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ce beau passage. C'est révélateur de qui tu es vraiment. C'est révélateur de ta mission, de ta grandeur, de ta beauté, de ta majesté. C'est révélateur, Seigneur, de notre mission à nous. Pourquoi est-ce qu'on est ici sur la terre? À quoi on sert? Pourquoi on est là, Seigneur? Qu'est-ce qui peut vraiment rassasier notre âme comme chrétien? C'est révélateur, Seigneur, de ce que c'est que passer de la mort à la vie puis devenir un témoin de Jésus. Donne-nous, Seigneur, d'annoncer l'Évangile avec spontanéité, avec simplicité, de croire, Seigneur, que tu nous envoies dans un champ qui est mûr. Et oui, il y a des gens qui sont prêts à recevoir cette parole de l'Évangile pour devenir chrétien, croire en toi, reconnaître que tu es le sauveur du monde. Donne-nous, Seigneur, d'entrer dans cette mission puis d'être rassasiés de cette mission-là, d'en faire notre priorité, de se nourrir, de faire ta volonté, Seigneur, et simplement avec les moyens qu'on a, avec les outils qu'on a, avec les capacités qu'on a, cette dame samaritaine qui pouvait simplement dire, « Est-ce que ça se pourrait que j'aie rencontré le Messie? » Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Seigneur, conduis cette Église à vraiment être absorbé par ta volonté, Jésus, par la mission que tu nous as confiée. Et alors qu'on déploie nos dons, nos talents pour aimer notre prochain, prendre soin des gens, faire du bien. Amen! Seigneur, garde-nous de toujours avoir à l'esprit que notre mission, ce qui rassasie notre âme, c'est de proclamer au monde que tu es le sauveur du monde. C'est en Jésus-Christ qu'on prie, Seigneur. Amen!